Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc de récits d'opérations, en tout cas souvenirs de vie militaire, en partenariat aujourd'hui avec l'École de Guerre Terre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Damien, donc bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc militaire de l'armée de terre, plus précisément dans l'ALAT, donc l'aviation légère de l'armée de terre, et plus particulièrement sur hélicoptère, puisque vous étiez alors... Maintenant, vous êtes à l'École de Guerre Terre, mais à l'époque, vous étiez donc dans le 3e régiment d'hélicoptères de combat.
Oui.
C'est sur quel hélicoptère, déjà ?
Alors, j'étais à l'époque sur Gazelle, j'ai toujours évolué sur Gazelle.
Parce qu'on peut rappeler qu'il y a les Gazelles et il y a les Tigres.
Oui, tout à fait. Le régiment, à l'époque, était équipé de Gazelle et de Puma. Et donc, j'étais sur hélicoptère Gazelle Viviane, notamment équipé de missiles HOT.
D'accord. Alors, l'histoire que vous allez nous raconter, alors je vous laisse y aller, mais je crois que c'est en 2011 et c'est
oui,
dans le contexte
fait,
de la
Libye. Oui, tout à fait, en 2011, j'ai été engagé avec mon régiment au cours du deuxième mandat de l'opération Harmattan, mandat aéromobile, donc une première rotation du premier régiment d'hélicoptères de combat avait embarqué sur le Tonnerre pour appuyer la coalition dans le cadre de sa lutte contre les forces pro-kadhafistes.
Donc le Tonnerre, rappelons que c'est le porte-hélicoptère,
fait,
c'est
le
BPC, le bâtiment de projection et de commandement de Tonnerre, qui du coup opérait à partir du bateau.
Tout à fait, exactement. Donc ils avaient embarqué sur ce bâtiment en mai, pour un mandat qui ne devait durer que quelques semaines et qui finalement s'est prolongé. Donc à partir de juillet, un deuxième mandat a été... mis sur pied, armé majoritairement par le 3e RHC. Et donc j'ai été engagé au sein de ce mandat. C'était ma première opération extérieure. J'étais lieutenant à l'époque, chef de patrouille, et ça faisait 6 mois à peu près que j'étais sorti d'école. Donc c'était une grande première pour moi.
Et c'était quoi, je sais plus exactement la chronologie très fine de 2011 en Libye en tête, c'est-à-dire c'était quel genre d'opération, c'était quel genre d'engagement à ce moment-là ?
Alors c'était un engagement exclusivement aérien, caractérisé notamment par une action de l'armée de l'air au tout début du conflit, et une décision politique a été prise au cours du conflit pour varier les effets que pouvait apporter la coalition au profit des forces d'opposition. Et une de ces variations, c'était l'apport de l'emploi d'hélicoptères en complément des bombardements aériens menés par l'armée de l'air, les hélicoptères ayant des modes d'action différenciés et pouvant créer un effet différent des bombardements aériens, notamment par la vision horizontale, la vision plus ras du sol, si je puis me permettre, qu'ils ont par rapport aux avions de l'armée de l'air.
Je veux dire, même en termes de force kadhafiste, c'est-à-dire ça faisait déjà plusieurs... Enfin, je sais pas, ils avaient encore des tanks. Enfin, c'était
oui,
quoi l'ennemi,
alors,
quoi
l'ennemi, l'ennemi, c'était une armée quasiment conventionnelle, l'armée du général Kadhafi, équipée de blindés, de transports de troupes, également avec des versions plus légères, des pick-up équipés d'armement lourd, de canons de 23 mm, donc des armements assez lourds. Une organisation militaire en plusieurs lignes de front, un premier échelon au contact des forces d'opposition, des éléments réservés, des brigades de réserve, etc.
Donc quand vous êtes arrivé, il y en avait encore.
Il y en avait encore, tout à fait. Oui. L'armée de l'air.
C'est un peu comme Obélix et les Romains, quoi.
Exactement.
Il y en avait encore.
En fait, la situation.
Ils n'avaient pas tout fini.
Tout à fait, exactement. Ils n'avaient pas tout fini. La situation était un petit peu figée. Il y a eu un effet considérable apporté par les bombardements aériens qui ont certes causé de l'attrition chez les forces pro-kadhafistes. mais pas suffisamment pour débloquer la situation, pour permettre une avancée significative des forces d'opposition.
Donc c'est là que les hélicoptères avaient un rôle, parce avec l'idée que bah, ça va moins vite et ça peut être stationnaire, donc ça peut frapper différemment. Quoi.
Exactement, frapper différemment, frapper en essaim, en groupe, en meute, de manière assez massive, certes ponctuelle dans le temps et dans l'espace, mais de manière assez massive pour apporter un effet plus décisif sur un point identifié comme important au niveau tactique, voire supérieur.
Mais alors du coup, ce moment, cette opération que vous allez nous raconter, c'était quel genre d'objectif, quel genre de...
Alors l'opération dont je vais vous parler, c'est une opération qui ciblait le verrou de Brega, une situation assez figée au niveau de la ville de Brega, au niveau d'un front entre les forces pro-kadhafistes et les forces d'opposition soutenues par la coalition.
Mais dans la ville ou autour de la ville ?
Dans la ville et autour de la ville, c'est-à-dire que la ville était tenue par les pro-kadhafistes et les forces d'opposition cherchaient à s'en emparer pour pouvoir continuer ensuite leur poussée en direction de Tripoli, qui était en arrière de Brega. Et donc cette opération visait à faire sauter ce fameux verrou par une action aéromobile. Donc il y a eu plusieurs raids menés dans cette région. Et l'opération à laquelle je pense, c'est une opération qui a été menée... Le commandement a décidé de fournir un effort plus important sur le plan aéromobile, de manière à faire sauter définitivement ce verrou de Brega, ce qui s'est effectivement réalisé juste après. Donc la capacité hélicoptère n'avait pas en soi d'apport, c'était pas elle qui permettait de prendre la ville, mais en revanche elle a eu un effet considérable sur la capacité matérielle et sur le moral des forces pro-kadhafistes, ce qui ultérieurement a permis à l'opposition de s'emparer de la ville et de poursuivre ensuite vers Tripoli.
Mais ouais, du coup, bah, on en reparlera j'imagine, mais c'est, du coup ça veut dire que c'est un combat urbain.
Oui, alors un combat urbain, pour la partie hélico, on ne tirait pas, on n'était pas employé dans la ville. En revanche, le but de cette opération, c'était de briser le moral de l'adversaire, sa volonté de vouloir tenir la ville, et de porter un coup à ses réserves, aux réserves qui portaient juste qu'il avait...
Donc en leur montrant qu'il y avait une supériorité aérienne, et que du coup c'était pas la peine. Mais bah alors entrons directement dans la chose. Déjà, vous partiez d'où ?
Alors on partait du bâtiment porte-hélicoptère Mistral, qui évoluait en Méditerranée en permanence au cours de la journée.
Rappelons que c'est le sister ship du Tonnerre dont on a déjà parlé tout à l'heure. C'est des bâtiments qui sont faits pour ça.
Ils sont faits pour ça, oui, tout à fait. On a embarqué le premier mandat, celui du premier régiment d'hélicoptère de combat était embarqué sur le BPC Tonnerre. Et nous avons embarqué à Toulon sur le Mistral qui a relevé le Tonnerre avec ses hélicoptères, ses nouveaux équipages, etc. Et donc le Mistral évoluait en Méditerranée en permanence dans la zone d'action au large de la Libye. Et ponctuellement la nuit, sur des créneaux identifiés, se rapprocher des côtes libyennes pour mener un raid, appuyé par des avions de la coalition, par des bâtiments, des frégates de la marine nationale également, qui bombardaient les côtes, etc., qui appuyaient notre infiltration. Et donc c'est dans ce cadre général que nous étions employés.
Je sais pas, Brega, c'est en bord de mer ?
Oui, tout à fait, c'est en bord de mer.
Donc vous n'aviez pas besoin de passer la ligne de défense ? Puis ensuite de pénétrer, il fallait vous arriviez depuis la mer et directement dans la ville.
On pouvait opérer depuis la mer ou s'enfoncer un petit peu dans la terre, mais très peu. Le territoire libyen a cette caractéristique d'être quasiment exclusivement... les forces en présence étaient exclusivement réparties quasiment le long du littoral, ce qui facilitait notre action depuis la mer.
Et donc c'était la nuit ?
Et c'était la nuit, c'était exclusivement la nuit. Pour des raisons de sûreté, bénéficiant de moyens d'optique nocturne, de caméras thermiques, on choisissait des modes d'action exclusivement de nuit, de manière à avoir un ascendant sur l'adversaire, à le surprendre également, puisque la nuit, évidemment, ils se reposent, ils ont tendance à relâcher la pression pour reprendre les combats de la journée entre forces d'opposition et forces pro-kadhafistes.
Et c'est long, un raid ?
Un raid, c'est assez long en soi parce que c'est très intense, mais finalement dans le temps, sur une échelle d'opération, c'est assez court. C'est les hélicoptères quittent le bateau au maximum pendant 2h30 pour les tigres, ceux qui ont le plus d'autonomie, ou les pumas. Les gazelles, c'est plus 1h30. En l'occurrence, celui-là, celui auquel je pense, a été particulièrement long parce que il y a eu plusieurs vagues de gazelles, plusieurs vagues d'attaques, de manière à surprendre l'adversaire.
Vous avez combien des gazelles? Enfin,
on avait une dizaine de gazelles embarquées sur le bâtiment, mais on n'en utilisait que 4 environ par raid. La gazelle ayant une particularité, c'est qu'elle était équipée de missiles HOT, donc anti-char, ce que n'avait pas le tigre. Donc le tigre avait des capacités formidables en autonomie, en précision des tirs avec leur canon de 30 mm. En revanche, ils n'avaient pas cette capacité de destruction de blindés que nous avions.
Et ils avaient des blindés ?
Et ils avaient des blindés, oui, tout à fait. Ils avaient des blindés, des chars, des BMP, donc des transports de troupes blindés. Et c'était nos cibles majeures, en plus de notamment des véhicules logistiques, donc des citernes de carburant essentiellement, et les postes de commandement. Et donc en fait, les tigres et les gazelles étaient employés de manière complémentaire, le tigre ayant un canon très précis, très utile pour l'engagement contre des...
Le tigre, on peut préciser, c'est un hélicoptère formidable, c'est vraiment un hélicoptère construit autour de son canon dans une certaine
mesure. Exactement, oui, tout à fait. C'est un système d'armes, le canon de 30 mm, sur lequel on a construit une plateforme à voilure tournante, le tigre, et c'est effectivement un outil qui s'est révélé déterminant dans l'emploi du groupe aéromobile, donc de tous les hélicoptères de manière générale. C'est-à-dire que le tigre était à la fois l'éclaireur de tout le groupe. C'est eux qui décollaient en premier, qui allaient reconnaître la zone, puisqu'ils avaient plus d'autonomie, qui désignaient les cibles aux gazelles, qui souvent étaient limitées dans leur ce qu'on appelle le playtime, donc dans le temps qu'elles avaient disponible sur zone, et qui ensuite souvent exploitaient, une fois que les gazelles revenaient sur le bâtiment, faute de carburant, les tigres restaient sur zone pour exploiter la désorganisation créée par l'emploi des gazelles, et y rentrer en dernier. Donc, et enfin, pendant que les gazelles faisaient leur reconnaissance, identifiaient et détruisaient des cibles, les tigres assuraient leur protection. Donc les gazelles, en pleine nuit, engagées sur le territoire libyen, se concentraient sur des objectifs à 2, 3, 4 km. Les tigres, pendant ce temps-là, créaient une bulle de sécurité autour des gazelles pour les protéger, parce qu'on était sur un territoire complètement hostile.
Alors, passons peut-être à cette nuit en particulier. Donc ça a commencé comment? C'est-à-dire, comment s'est engagée l'opération, quoi?
Alors le schéma classique jusque-là, c'était des opérations ponctuelles. Donc, comme j'expliquais, les tirs qui décollent, une patrouille de 2, 3, éventuellement 4 gazelles qui intervient, le retour des gazelles sur le bâtiment, et les tirs qui exploitent, et ensuite on fin de l'opération. Et il y avait eu quelques raids dans la région de Brega, qui n'avaient pas décoincé la situation. Et le commandement a décidé de faire une opération avec une phase de déception au début, c'est-à-dire une opération qui vise non seulement à attaquer, à s'en prendre au potentiel militaire, matériel de l'adversaire, mais également à son potentiel moral. Et pour cela, ce qui a été décidé, c'est d'abord de faire une diversion sur la ligne de front quasiment, donc d'engager une patrouille de gazelle de manière assez simple. De la faire revenir sur le bâtiment de manière à ce que l'adversaire qui était habitué à nos modes d'action se dise que le combat était terminé et qu'il pouvait, se remettre en ordre de bataille et se préparer pour la journée du lendemain ou se reposer, etc. Alors qu'en fait, il ne s'agissait que d'une diversion sur la ligne de front puisque dans un deuxième temps, une autre patrouille de gazelle venait frapper les arrières de l'adversaire, donc faire une reconnaissance sur ses arrières, reconnaissance exploité par une troisième vague de gazelles pour définitivement briser l'adversaire, qu'ils se disent que, bon, déjà attaquer son potentiel, mais également qu'ils se disent que finalement le combat peut durer toute la nuit, n'importe quand, voilà, le prendre par surprise et briser son moral. Et donc ce qui s'est. La manière dont ça s'est déroulé, donc déjà le schéma classique, on passe toute la des journées entières, 2-3 jours, à préparer la mission, préparer tous les itinéraires d'infiltration qui sont. Calé à la minute près, donc chacun sait par quel point il passe à la minute près, avec des itinéraires d'infiltration et d'exfiltration au-dessus de la mer différenciés, pour que chacun rejoigne sa zone d'action en sécurité. Donc on passe plusieurs jours à faire ça.
Et là vous êtes par groupe de gazelles, ou c'est chaque gazelle à son chemin à elle?
Alors on fait des groupes par patrouille en général, des itinéraires par patrouille. Donc une patrouille c'est 2 à 3 appareils, là c'était des patrouilles de 2. avec une grosse coordination faite avec le bâtiment qui nous lâche, qui nous libère au-dessus de la mer, qui doit aussi nous recueillir. Donc lui, il continue de progresser pendant les combats. Donc il y a un horaire et un lieu de rendez-vous également à se donner au retour. Donc tous les itinéraires sont calculés en fonction du moment où on décolle, etc. Chaque patrouille a son itinéraire d'infiltration. En général, on fait un itinéraire par patrouille. Oui.
Mais c'est cette opération, enfin, c'est-à-dire à la fois le plan et la manière dont il s'est déroulé. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez dit que ça se passe à 2-3 km, les engagements, oui. Puisque vos missiles anti-char tirent de loin. Vous restez à cette distance-là, ou parce qu'on sait, enfin, la Gazelle est par ailleurs à l'avantage d'être très maniable, d'être un petit hélicoptère très agile, quoi. Vous vous rapprochez jamais plus ou...
Non. On tâche vraiment de rester à distance, surtout que là, il y avait beaucoup d'inconnus sur la nature et la position des adversaires. On avait des zones de déploiement, globalement, mais il y avait tellement d'inconnus sur la position exacte qu'on gardait nos distances au maximum. Et souvent, c'était l'intérêt du Tigre qui, lui, a vraiment une capacité de défense immédiate avec son canon. C'est-à-dire qu'il peut aller reconnaître plus précisément une zone. S'il est pris à partie, il peut riposter immédiatement avec son canon de 30 mm, ce qui est plus difficile quand même avec une gazelle équipée de missiles. Dans d'autres configurations, on aurait pu riposter.
Oui, mais d'autant que des missiles, vous n'en avez pas une quantité
voilà,
infinie,
exactement.
Donc il faut les économiser.
Exactement, on les garde pour les cibles identifiées prioritaires. Donc on gardait cette distance maximum avec l'ennemi, avec la menace, appuyée par les tigres. Il y avait vraiment un travail permanent entre les tigres et les gazelles. Et là, ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est déroulé, les tigres ont décollé en premier. En fait, sur le bâtiment, il y a ce qu'on appelle 6 spots de décollage, ce qui est assez limité, puisque chaque spot, les premiers spots utilisés sont utilisés par les 2 tigres, 2 pumas qui servent à déployer un poste de commandement volant de toute l'opération, et un deuxième puma qui embarque un groupe de commandos qui est dédié à la récupération d'un équipage qui serait abattu et qui serait à récupérer sur le territoire. Donc ça fait déjà 4 spots utilisés. Il en reste un qu'on garde libre en permanence au cas où quelqu'un est en un problème mécanique et doit revenir de manière urgente, donc il n'en reste plus qu'un d'exploitable. Ce qui fait qu'à chaque fois les tigres décollaient en premier avec les pumas, pendant ce temps, tout ça par nuit noire, en silence radio, sans lumière, pendant ce temps les mécaniciens poussaient les gazelles sur le pont, chacune sur son spot, et on faisait démarrer et décoller une deuxième vague pour l'attaque. Donc sur cette nuit-là, les tigres ont décollé avec les pumas, ont fait la reconnaissance de la ligne de front pour préparer le terrain, pour faire également du bruit, pour que l'adversaire se dise que le raid va commencer. Et j'étais dans la première patrouille à décoller, et donc j'ai rejoint les 2 tigres au large. On est resté sur cette phase-là, au-dessus de la mer, et ils m'ont désigné des objectifs. Ils m'ont dit voilà, la ligne de front elle est ici exactement. On a repéré, parce que puisque c'est une zone de contact, les véhicules sont embossés, ils sont cachés. Donc ils m'ont guidé et ils m'ont montré les objectifs. Et le but c'était, pardonnez-moi l'expression, mais essentiellement le but c'était d'être vu et de juste de frapper ponctuellement. Donc avec ma patrouille, on a détruit 4 véhicules de mémoire de manière assez rapide, et on s'est désengagé immédiatement pour retourner sur le bâtiment. Les tirs également se sont éloignés de la côte, donc ils sont partis assez loin au large, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun bruit sur la zone et que l'adversaire se dise que la phase de combat était terminée. Sauf que pendant ce temps, une deuxième vague de gazelles avait été mise sur le pont, avait décollé et s'infiltrait en direction de l'échelon arrière, des réserves de l'ennemi, là où on avait localisé également des compagnies, des bataillons de réserve. Et ils ont été rejoints par les tigres, donc tout ça toujours en quasiment silence radio et surtout en nuit noir, donc personne, on ne voit pas son hélice. Hein. Quand je suis en vol, je ne vois pas mon hélice. Donc tout ça dans une coordination assez fine. Cette deuxième vague de gazelle, elle, est allée sur les arrières et a frappé directement les réserves de l'ennemi. En l'occurrence, ça c'est l'anecdote. Au début, ils ont eu beaucoup de mal à trouver ces véhicules qui systématiquement se garent, se postent sous de la végétation. Parce qu'ils savent qu'ils sont ciblés par les avions de la coalition de jour, donc ils se mettent sous des arbres de manière à pas être vus du ciel. Donc c'est assez difficile.
C'est genre des palmiers, quoi.
Exactement, des palmiers, il y a des palmeraies, il y a différents types de végétation.
Et du coup, les gazelles, parce que vous pouvez être en rasant,
pouvez
les voir.
Exactement. C'est le rôle, c'était un peu le rôle de la meute, si je puis dire, c'était de chasser ces cibles qui cherchaient à échapper aux vues des avions de la coalition de jour. et bien nous, on essayait de les frapper de nuit, au moment où ils sont, voilà, ils se sont postés sous la végétation, donc il fallait les traquer. Donc c'est d'où la difficulté de les trouver, et cette deuxième vague de gazelles a fini par trouver tout, en fin d'autonomie, il est quasiment rentré sur le bâtiment, et ils ont trouvé une compagnie complète, qu'ils ont neutralisée à deux gazelles, hein, avec quatre missiles. Donc il y en a un notamment qui a tiré 4 missiles en 90 secondes, ce qui est un record dans la latte, hein, c'est assez impressionnant, parce qu'il était en fin de playtime. Et ensuite ils se sont désengagés. Et pour moi c'est un souvenir assez marquant parce que j'ai fait cette première vague de déception. Je suis revenu sur le bâtiment et je continuais, une fois que la deuxième vague a engagé le combat, j'étais sur le pont du bâtiment dans mon appareil. Des mécaniciens avaient replacé des missiles, etc. Donc j'étais prêt à redécoller et j'attendais le signal pour redécoller. Et j'entendais l'évolution des combats parce que du coup ils avaient engagé le combat avec l'arrière, l'échelon arrière de l'ennemi. Et donc au début ils ne trouvaient rien, donc je me suis dit que l'opération, la mission allait s'arrêter là. Et en fin de playtime, ils ont trouvé enfin ce qu'on cherchait.
Non mais c'est marrant, du coup ça pose une question intéressante qui est de comment on suit une opération à la radio, c'est-à-dire surtout en plus quand on est passé par là, c'est-à-dire est-ce que c'est conceptuel pour vous ou est-ce que vous voyez très bien de quoi ils parlent quand vous entendez un truc à la radio, c'est-à-dire est-ce que vous vous concentrez sur votre truc parce que vous avez des trucs à faire en même temps, ou est-ce que vraiment ça a réussi à vous projeter dans ce qu'ils sont en train de vivre, les copains qui sont au feu à ce moment-là?
On arrive très bien à se projeter. Et surtout que de nuit, tous les tirs sont très visuels, même à 30 km avec nos jumelles. On était équipés de jumelles de vision nocturne. Donc on voyait tous les tirs de nos appareils vers l'adversaire. Et on voyait les ripostes également. Donc c'est visuellement, on le voit. On arrive à suivre, évidemment.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Parce que ça c'est un truc, moi, j'ai jamais entendu. Mais est-ce qu'ils décrivent comment ils se positionnent? Ou est-ce qu'ils disent quand ils se prennent des tirs? Ou est-ce que juste c'est du non-dit? Bon,
ça parle beaucoup. Dès que le contact est engagé, ça parle beaucoup. Surtout qu'on a des hauteurs fixées à chacun. En général, les gazelles peuvent monter un petit peu pendant leur phase de tir. Mais il y a un plafond à ne pas dépasser parce qu'on a le tir qui, lui, circule au-dessus de nous. Et parfois en dessous ou sur les côtés. Donc chacun a un point de repère, avec un baptême terrain. Mettons par exemple Roméo, je suis sur Roméo. Le tigre sait qu'il y a une gazelle sur Roméo, il va tourner autour de Roméo pendant que la gazelle fait ses tirs.
Et donc, à la radio,
exactement, on parle à la radio, la gazelle va dire bon, j'ai détecté quelque chose, j'ai besoin de monter pour être sûr que voilà qu'il n'y a pas de civil autour, que c'est bien de l'armement que j'ai vu, ou je me rapproche, donc je quitte le point Roméo et je me rapproche, et ça discute comme ça. Donc le tigre qui fait son escorte, qui le protège, sait que la gazelle est en train de bouger, donc pas de risque de collision. Donc ça parle beaucoup, voilà, je me déplace, je me rapproche au nord. Je me décale à droite, je me décale à gauche, je monte. Le tic qui dit ok, c'est clair, en dessous il n'y a rien, j'ai bien regardé, il n'y a rien, tu peux continuer. Donc ça parle comme ça. Et ensuite,
du coup, vous qui l'avez dans le casque,
exactement,
de vous voyez très bien ce qui est en train de se passer.
Roméo, je sais où c'est, je sais où ils sont en train de regarder. Et chaque tir est annoncé parce que le missile hôte de la gazelle, c'est un missile filo-guidé, donc qui tire un fil derrière lui. Un fil extrêmement dangereux pour un hélicoptère. Donc chaque tir est annoncé, d'une part pour ce paramètre de sécurité, également pour pas surprendre nos amis, parce que le tigre, quand il voit une lumière, un trait de lumière d'un missile qui part, il faut qu'il sache que c'est un ami qui est en train de tirer, que c'est pas quelqu'un qui est en train de lui tirer dessus. Donc tout est annoncé. François tire au cap 330 dans 30 secondes. Ok, on sait qu'il y a quelqu'un qui va tirer dans 30 secondes. Donc je m'inquiète pas, ça va venir de la droite. On parle également dans l'appareil. Parce qu'on est deux dans l'appareil, donc on dit attention, dans 30 secondes sur la droite ça va tirer, t'inquiète pas, c'est pas pour nous, etc.
Et alors vous, donc jeune lieutenant à ce moment-là, quand vous entendez les copains qui ont trouvé, qui sont, vous avez envie de redécoller?
Ah oui, on a envie de redécoller. Surtout que celle-là était vraiment particulière, jusque-là j'avais fait que des... C'était extraordinaire comme expérience, mais on va sur la zone et on revient. Là, il y avait... Ce côté, je marque un premier coup, mais je vais également en marquer un autre derrière, et je vais vraiment frapper très fort ce soir. Et
avez redécollé ou pas?
Et on a redécollé. Voilà, on a redécollé. On a pris. En plus, c'était un ami, l'autre patrouille de gazelle, la deuxième vague, C'était un ami, c'est lui qui m'a fait, on s'est croisé donc sur le au-dessus de la mer, hein, on s'est paré évidemment quelques kilomètres, mais à la radio, c'est lui qui m'a fait un petit briefing sur la situation. Il m'a dit voilà, on a passé sur tel endroit, on a détruit ça ici. On pense qu'il y a encore une compagnie un peu plus loin au nord. Voilà, c'est lui qui m'a fait le briefing. Et c'est quand même assez extraordinaire de parler à son ami à la radio au-dessus de la mer dans la nuit noire, alors qu'on voit au loin les feux, les premiers véhicules qui brûlent, etc. Donc c'est une atmosphère un peu surréaliste. Bon, évidemment, j'ai pas trop eu le temps de me dire ça sur le moment parce que le stress est intense. Mais a posteriori, oui, c'est
extrêmement. Oh, vous dites que vous voyez quand même des trucs pas mal.
Ah oui, sur le moment, oui, c'est. J'ai eu le temps de me dire ça sur le pont quand même. Quand on attendait sur le pont et que j'avais la tension de la première action qui redescendait un petit peu, j'ai eu le temps de me dire avec mon pilote à côté de moi, on s'est dit quand même c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer parce qu'on voyait ces éclairs au loin, ces explosions, les balles traçantes. Bon, en plus on était sur le pont donc hors de toute menace quasiment. Et donc on a le temps d'en profiter, entre guillemets, d'en profiter.
Ouais, mais justement, c'est... C'est-à-dire, c'était pas votre baptême du feu, mais c'était quand même pas l'un de vos premiers engagements.
Oui.
Vous êtes fait tirer dessus, j'imagine.
Oui, tout à fait. Pas ce soir-là, mais ouais. Sur le mandat, oui.
Non, mais pas ce soir-là, c'était suffisant. Non. Mais c'est-à-dire, parce qu'on en parlait avec un de vos collègues de la LAT aussi, qui nous disait que c'est pas bien blindé quand même une gazelle.
Non, oui.
C'est du plexi, quoi. Donc même un coup de 12-7 ou de Kalachnikov, ça peut passer, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc même s'il y a un tigre qui est là, etc., ça, quand on est engagé en plus pas loin d'une ville et qu'on est.
Oui, tout à fait.
Enfin, on se sent comment par rapport à ça quand...
Alors, en fait, on se sait vulnérable, mais on ne l'intériorise pas trop sur le moment. Parce que déjà la mission monopolise toutes les ressources, donc on n'a pas trop le temps de se dire de penser à ça. Et surtout, ça a été pris en compte avant. En fait, on a tout préparé avant, on a tout coordonné avant, et j'avais une confiance quasiment aveugle dans mes anges gardiens entre guillemets, c'est-à-dire les tigres, qui faisaient la sécurité autour de mon appareil et qui me permettaient de me concentrer sur ma zone de recherche au loin, à quelques kilomètres. Et sur le timing de mon opération, parce que tout est timé, on sait à quelle heure on doit décrocher, revenir sur le bâtiment, etc. Donc il y a.
Mais vous avez l'idée que. Mais parce que je sais pas, ça peut aller vite. Non, enfin, c'est-à-dire, s'il y a un type qui sort avec une mitrailleuse légère, vous avez confiance que le tigre le verra à temps, quoi.
Alors non, ça, je sais qu'il il verra pas forcément tout, bien évidemment, mais. Je me suis jamais attardé sur ce. Non, je me suis jamais attardé là-dessus. Ça fait partie de la mission. Il y a une tension énorme qui monte tout au long de la journée. Donc les raids se faisaient de nuit tout au long de la journée. La tension monte jusqu'à un point, jusqu'à une heure avant le décollage, où c'est complètement surréaliste. Le bateau a éteint toutes ses lumières tous les équipages montent dans le. Il y a une petite salle de vestiaire où on récupère nos gilets de sauvetage, nos plaques de protection, nos casques de vol, nos munitions, etc. Et dans ce vestiaire, il y a un silence complet à chaque fois. Une heure avant le décollage, personne ne parle, alors qu'on va tous partir pour une opération critique. Mais personne ne parle, on est tous extrêmement concentrés. Donc on est focalisé à fond sur la mission, sur ce qu'on a. On a tout préparé pendant des jours, on a pensé à tout. Donc on se pose. Enfin, c'est pas qu'on se pose pas de questions sur est-ce que je vais mourir ou pas, c'est pas ça, mais. On se concentre sur notre tâche, et notre tâche c'est d'aller faire cette reconnaissance, et on sait que on a mis toutes les mesures, on a préparé tout pour se prémunir de la menace, notamment grâce au tigre.
Et quel souvenir vous en gardez alors de cette opération là vous nous avez dit, mais même plus généralement de, je veux dire, un baptême du feu en Libye en 2011.
Oui.
C'est, enfin, il y a plus relaxant quand même. C'est-à-dire, vous êtes quand même face à une armée, alors certes un peu obsolète, enfin, qui est bien lourde conventionnellement. C'est-à-dire, je sais pas si vous reverrez très souvent autant d'intensité à un ennemi aussi puissant en opération directe, quoi.
Oui,
vous en gardez quoi comme souvenir d'avoir commencé par la Libye, par Armatan, quoi.
Ouais, c'était un peu surréaliste, quoi. C'était quasiment inespéré. Je suis arrivé au 3e RHC dans mon régiment en février. J'ai commencé par un vigipirate d'un mois, ce qui n'était pas tout à fait ce à quoi je me préparais initialement, même si c'était une expérience très enrichissante. Et la Libye, le conflit en Libye commençait à se développer. mais jamais j'aurais imaginé y être engagé directement. Et en fait, ça a été une opportunité, parce que le régiment était engagé à la fois en Afghanistan et en Libye. Et donc, j'ai été désigné pour ce mandat. Et c'était... Je mesurais même pas,
dans la première année, on ne sait pas forcément vous qu'on aurait envoyé.
Oui, tout à fait. Non, c'était plutôt les plus expérimentés. Et je pense que... Moi, en tout cas, je ne mesurais pas ce dans quoi j'ai. En revanche, quand on m'en a parlé, quand on m'a dit « Écoute, on va peut-être avoir besoin de toi pour aller là-bas », évidemment, je me suis porté volontaire tout de suite. J'ai dit que j'étais intéressé, que je ferais tout pour me préparer, parce qu'il y avait quelques qualifications à passer pour les appontages sur les bâtiments. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai couru partout à travers la France pour faire les bonnes... poursuivre les bons stages de manière
à... Parce que c'est vrai, on le précise pas, mais vous êtes quand même un soldat de l'armée de terre, c'est un officier de l'armée de terre. On vous a quand même forcé à cohabiter avec des marins pendant longtemps.
Oui, c'était une expérience également, mais ça a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, j'ai découvert d'un coup, c'est peut-être ce qui m'a le plus impressionné, une opération interarmée, c'est-à-dire que nos infiltrations étaient préparées par des tirs des frégates des bâtiments de la Marine nationale. Nous étions appuyés par des avions qui nous surveillaient, enfin qui étaient présents dans le ciel libyen également pendant nos opérations. Donc c'était assez surréaliste. Ouais. Là où un jeune lieutenant dans un régiment de la latte commence par des montes crescendo dans l'intensité de ses opérations, peut-être avec un déploiement à Djibouti par exemple pour commencer à se familiariser avec le milieu désertique, etc. Là, j'ai été engagé d'emblée et c'était extraordinaire.
Merci beaucoup, commandant Damien.
Je vous en prie.